Aventure du grand Sidoine et du petit Médéric, troisième partie. Chapitre 7 Où Sidoine devient bavard. Il allait continuer sur ce ton lorsqu'il entendit derrière lui s'élever un bruit sourd, semblable au roulement lointain d'une cataracte. Pas un souffle de vent n'agitait les feuilles. La rivière voisine coulait avec un murmure trop discret pour se permettre de pareilles plaintes. Étonné, Médéric écarta les branches, interrogeant l'horizon. Au premier abord, il ne vit rien. La campagne de ce côté s'étendait, grise et nue, sorte de plaine s'élevant de coteau en coteau, jusqu'aux montagnes qui la bornaient. Mais le bruit augmentant toujours, il regarda mieux. Alors il remarqua, surgissant d'un pli de terrain, une roche d'une structure singulière. Cette roche, car il était difficile de la prendre pour autre chose qu'une roche, avait la forme exacte et la couleur d'un nez, mais d'un nez colossal, dans lequel on eût aisément taillé plusieurs centaines de nez ordinaires. Tourné d'une façon désespérée vers le ciel, ce nez avait toutes les allures d'un nez troublé dans sa quiétude par quelque grande douleur. À coup sûr, le bruit partait de ce nez. Médéric, quand il eut examiné la roche avec attention, hésita un instant, n'osant en croire ses yeux. Enfin, se retrouvant en pays de connaissance, ne pouvant douter, « Hé, mon mignon » cria-t-il, émerveillé. « Pourquoi diable ton nez se promène-t-il tout seul dans les champs? Que je meure si ce n'est lui qui est là, à se pâmer comme un veau qu'on égorge !» À ces mots, le nez, contre toute croyance, la roche n'était en effet autre chose qu'un nez. Le nez s'agita d'une manière déplorable. Il y eut comme un éboulement de terrain. Un long bloc grisâtre, qui ressemblait assez à un énorme obélisque couché sur le sol, s'agita, se replia sur lui-même, se relevant d'un bout, se dédoublant de l'autre. Une tête surgit, une poitrine se dessina, le tout emmanché de deux jambes, qui, pour être démesurées, n'en auraient pas moins été des jambes dans toutes les langues, tant anciennes que modernes. Sidoine, quand il eut ramené ses membres, s'assit sur son séant, les poings dans les yeux, les genoux hauts et écartés. Il sanglotait à fendre l'âme. « Oh oh !» dit Médéric, « je le savais bien, il n'y a que mon mignon dans le monde pour avoir un nez d'une telle encolure. » C'est là un nez que je connais comme le clocher de mon village. Hé, mon pauvre frère, nous avons donc aussi de gros chagrins? Je te le jure, je voulais m'absenter 10 minutes au plus. Si tu me retrouves au bout de 10 heures, la faute en est assurément au soleil et aux buissons chargés de mûres. Nous leur pardonnerons. Ça, jette-moi ce dogue à la porte, nous causerons plus à l'aise. Sidoine, toujours pleurant, allongea le bras, prit le dogue par la peau du cou, il le balança une seconde et l'envoya, hurlant et se tordant, droit dans le ciel, avec une vitesse de plusieurs milliers de lieues à la seconde. Médéric prit le plus grand plaisir à cette ascension. Il suivit la bête de l'œil. Quand il la vit entrer dans la sphère d'attraction de la lune, il battit des mains, félicitant son compagnon d'avoir enfin peuplé ce satellite pour le plus grand bonheur des astronomes futurs. « Or ça, mon mignon » dit-il en sautant à terre. « Et notre peuple ?» Sidoine, à cette question, éclata de plus belle en gémissement, dodelinant de la tête, se barbouillant le visage de ses larmes. « Bah !» reprit Médéric. « Notre peuple serait-il mort ? L'aurais-tu massacré dans un moment d'ennui, réfléchissant que les peuples rois sont sujets aux abdications tout comme les autres monarques? Frère, frère, sanglota Sidoine. Notre peuple s'est mal conduit.
Vraiment ?
Il s'est mis en colère à propos de rien.
Le vilain !
Et m'a jeté à la porte.
Le grossier !
Comme jamais grand seigneur n'a jeté un laquais.
Voyez-vous l'aristocrate ?
À chaque virgule, Sidoine poussait un profond soupir. Lorsqu'il rencontra un point dans sa phrase, son émotion étant au comble, il fondit de nouveau en larmes.
« Mon mignon !» reprit Médéric.
« Il est triste, sans doute, pour un maître d'être congédié par ses valets.
Mais je ne vois pas là matière à tant se désoler.
Si ta douleur ne me prouvait une fois de plus l'excellence de ton âme et ton ignorance des rapports sociaux, je te gronderais de t'affliger ainsi d'une aventure très fréquente. Nous lirons l'histoire un de ces jours. Tu le verras, c'est une vieille habitude des nations de malmener les princes dont elles ne veulent plus. Malgré le dire de certaines gens, Dieu n'a jamais eu la singulière fantaisie de créer une race particulière dans le but d'imposer à ses enfants des maîtres élus par lui de père en fils.
Ne t'étonne donc pas si les gouvernés veulent devenir gouvernants à leur tour, puisque tout homme a le droit d'avoir cette ambition.
Cela soulage de pouvoir raisonner logiquement son malheur.
Allons, sèche tes larmes.
Elle serait bonne chez un efféminé, un glorieux nourri de louanges, qui aurait oublié son métier d'homme en exerçant trop longtemps celui de roi. Mais nous, monarques d'hier, nous savons encore marcher sans autre escorte que notre ombre, et vivre au soleil, n'ayant pour royaume que le peu de poussière où se posent nos pieds.
« Eh !» répondit Sidoine, d'un ton dolent.
« Tu en parles à ton aise. La profession me plaisait. Je me battais à point que veux-tu. Je mettais tous les jours mes habits du dimanche. Je dormais sur de la paille fraîche. Raisonne, explique tant que tu voudras. Moi, je veux pleurer. »
Et il pleura.
Puis, s'arrêtant brusquement au milieu d'un sanglot,
« Voici, dit-il, comment les choses se sont passées. »
« Mon mignon, interrompit Médéric, tu deviens bavard. Le désespoir ne te vaut rien. »
Ce matin, vers 6 heures, comme je rêvais innocemment, un grand bruit m'a réveillé. J'ai ouvert un œil. Le peuple entourait mon lit, paraissant fort ému, attendant mon réveil, en quête de quelque jugement.
« Bon, me suis-je dit, voilà qui regarde Médéric, dormons encore. » Et je me suis rendormi. Au bout de je ne sais combien de minutes, j'ai senti mes sujets me tirer respectueusement par un coin de ma blouse royale. Force m'a été d'ouvrir les deux yeux. Le peuple s'impatientait. « Qu'a donc mon frère Médéric ? » ai-je pensé de méchante humeur. Et en pensant cela, je me suis mis sur mon séant. Ce que voyant, les braves gens qui m'entouraient ont poussé un murmure de satisfaction. « Me comprends-tu, frère, et ne sais-je pas compter à l'occasion ?»«
Parfaitement, mais si tu comptes de ce train-là, tu compteras jusqu'à demain. »«
Que voulait notre peuple ?»«
Ah, voilà, je crois n'avoir pas trop bien compris. Un vieux s'est approché de moi. » traînant sur ses talons une vache au bout d'un cordeau. Il la plantait à mes pieds, la tête dirigée de mon côté. À droite et à gauche de la bête, en face de chaque flanc, se sont formés deux groupes se montrant le poing. Celui de droite criait « Elle est blanche !» Celui de gauche « Elle est noire !» Alors le vieux, avec force salut, m'a dit d'un ton humble « Sire, est-elle noire ?» « Est-elle blanche ?»«
Mais, interrompit Médéric, c'était de la haute philosophie,
cela. La vache était-elle noire, mon mignon ?»«
Pas précisément. »«
Alors, elle était blanche. »«
Oh, pour cela, non.
D'ailleurs, je m'inquiétais peu d'abord de la couleur de la bête. C'était à toi de répondre. Je n'avais que faire de regarder.
tu ne répondais toujours pas.
Moi, te pensant en train de préparer ton discours, je m'apprêtais à me rendormir sournoisement. Le vieux, qui s'était courbé en deux pour recevoir ma réponse, se sentant des démangeaisons dans l'échine, me répétait « Sire, est-elle blanche? Est-elle noire ?»«
Mon mignon, tu dramatises ton récit selon toutes les règles de l'art. Pour peu que j'aie le temps, je ferai de toi un auteur tragique. Mais continue. »«
Ah, le paresseux, me dis-je enfin, il dort comme un roi. » Cependant, le peuple commençait à s'impatienter de nouveau. Il s'agissait de t'éveiller, le plus doucement possible, sans qu'il s'aperçût du fait. Je glissais un doigt dans mon oreille gauche, elle était vide. Je le glissais dans mon oreille droite, vide également. C'est à partir de ces gestes que le peuple s'est fâché.
Pardieu, mon mignon, ignores-tu la mimique à ce point?
Se gratter une oreille est signe d'embarras. Et toi, lorsque tu as un jugement à rendre, tu vas te gratter les deux.
Frère, j'étais fort troublé. Je me levais, sans plus faire attention au peuple. Je fouillais énergiquement mes poches, celles de la blouse, celles de la culotte, toutes enfin. Rien dans les poches de gauche, rien dans les poches de droite. Mon frère Médéric n'était plus sur moi. J'avais espéré un instant le rencontrer, se promenant dans quelques goussets écartés. Je visitais les coutures, j'inspectais chaque pli. Personne, pas plus de Médéric dans mes vêtements que dans mes oreilles. Le peuple, stupéfait de ce singulier exercice, me soupçonna sans doute de chercher des raisons dans mes poches. Il attendit quelques minutes, puis se mit à me huer, sans plus de respect, comme si j'eusse été le dernier des manants. Avoue-le, frère, il eût fallu une forte tête pour se sauver saine et sauve d'une pareille situation.
Je l'avoue volontiers, mon mignon.
Et la vache ?
La vache. C'est en effet la vache qui m'embarrassait. Lorsque j'eus acquis la triste certitude qu'il allait me falloir parler en public, j'appelai à moi le plus de bon sens possible pour regarder la vache et la voir sans prévention aucune. Le vieux venait de se relever, me criant d'une voix colère cette éternelle phrase reprise en chœur par le peuple. « Est-elle blanche? Est-elle noire ?»«
En mon âme et conscience, mon frère Médéric, elle était noire et elle était blanche, le tout ensemble. Je m'apercevais bien que les uns la voulaient noire, les autres blanche. C'était justement là ce qui me troublait. »
Tu es un simple d'esprit, mon mignon. La couleur des objets dépend de la position des gens, ceux de gauche et ceux de droite, ne voyant à la fois qu'un des flancs de la vache, avaient également raison, tout en se trompant d'eux-mêmes. Toi, la regardant en face, tu la jugeais d'une façon autre. Était-ce la bonne? Je n'oserais le dire, car, remarque-le, quelqu'un placé à la queue aurait pu émettre un quatrième jugement, tout aussi logique que les trois premiers.
Eh, mon frère Médéric, pourquoi t'en philosopher? Je ne prétends pas être le seul qui ait eu raison. Seulement, je dis que la vache était blanche et noire, le tout ensemble. Et certes, je puis bien le dire, puisque c'est là ce que j'ai vu. Ma première pensée a été de communiquer à la foule cette vérité que mes yeux me révélaient, et je l'ai vu avec complaisance, ayant la naïveté de croire cette décision la meilleure possible, car elle devait contenter tout le monde, en ne donnant tort à personne.
Et quoi, mon pauvre mignon, tu as parlé?
Pouvais-je me taire? Le peuple était là, les oreilles grandes ouvertes, avides de phrases comme la terre d'eau de pluie après 2 mois de sécheresse. Les plaisants, à me voir l'air niais et embarrassé, criaient que ma voix de fauvette s'en était allée, juste à la saison des nids. Je tournai cette fois ma phrase dans la bouche, puis fermant les paupières à demi, arrondissant les bras, je prononçai ces mots du ton le plus flûté possible. « Mes bien-aimés sujets, la vache est noire et blanche, le tout ensemble. » Oh là là, mon mignon, à quelle école as-tu appris à faire des discours d'une phrase? T'ai-je jamais donné de mauvais exemples? Il y avait là matière à emplir 2 volumes, et tu vas jeter tout le fruit de tes observations en 13 mots. Je jurerais qu'on t'a compris. Ton discours était pitoyable. Je te crois, mon frère. J'avais parlé très doucement. Tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, se bouchèrent les oreilles, se regardant épouvantés, comme s'ils eussent entendu le tonnerre gronder sur leur tête. Puis ils poussèrent de grands cris. « Eh, quoi ? » disaient-ils. « Quel est le malot truc qui se permet de pareils beuglements ? On nous a changé notre roi. Cet homme n'est pas notre doux seigneur, dont la voix suave faisait les délices de nos oreilles. Sauve-toi vite, vilain géant. Bon tout au plus à effrayer nos filles quand elles pleurent. Entendez-vous, l'imbécile, déclarer cette vache blanche et noire? Elle est blanche, elle est noire. Faudrait-il se moquer de nous en affirmant qu'elle est noire et blanche? Allons, vite, décampe. Oh, quelle sotte paire de poings! La laide parure quand il les balance niaisement, comme s'il ne savait qu'en faire. Jette-les dans un coin pour courir plus vite. Tu nous guérirais des rois si nous pouvions guérir de cette maladie. Plus vite encore, vide le royaume. Où avions-nous l'idée d'aimer les hommes hauts de plusieurs toises? Rien n'est plus artistement organisé que les moucherons. Nous voulons un moucheron.
Sidoine, au souvenir de cette scène de tumulte, ne put maîtriser son émotion. Ses larmes coulèrent de nouveau. Médéric ne souffla mot, car son mignon attendait sûrement ses consolations pour se désoler davantage. « Le peuple, reprit-il après un silence, me poussait lentement hors du territoire. Je reculais pas à pas, sans songer à me défendre, n'osant plus desserrer les lèvres, cherchant à cacher mes poings qui excitaient de telles huées. Je suis fort timide de ma nature, tu le sais, et rien ne me fâche comme de voir une foule s'occuper de moi. Aussi, quand je me trouvais en plein champ, mon parti fut-il bientôt pris. Je tournai le dos à mes révolutionnaires. Je me mis à courir de toute la longueur de mes jambes. Je les entendis se fâcher de ma fuite, plus fort qu'ils ne l'avaient fait 2 minutes auparavant de ma lenteur à reculer. Ils m'appelèrent lâche, me montrèrent le poing, oubliant qu'ils risquaient de me faire souvenir des miens, et finirent par me jeter des pierres lorsque je fus trop loin pour en être atteint. Hélas, mon frère Médéric, voilà de bien tristes aventures.
« Ça, courage !» répondit sagement Médéric.
« Tenons conseil. Que penses-tu d'une légère correction administrée à notre peuple? Non pour le faire rentrer dans le devoir, car, après tout, il n'avait pas le devoir de nous garder lorsque nous ne lui plaisions plus. Mais pour lui montrer qu'on ne jette pas impunément à la porte des gens comme nous. Je vote une courte averse de soufflet.
Oh ! Dit Sidoine. De pareilles corrections se lisent-elles dans l'histoire ?
Mais oui, parfois les rois rasent une ville, d'autres fois les villes coupent le cou au roi. C'est une douce réciprocité. Si cela peut te distraire, nous allons assommer ceux pour le compte desquels nous assommions hier.
Non, mon frère, ce serait une triste besogne. Je suis de ceux qui n'aiment pas à manger les poulets de leur basse-cour.
Bien dit, mon mignon. Léguons alors le soin de nous faire regretter au roi notre successeur. D'ailleurs, ce royaume était trop petit. Tu ne pouvais te remuer sans passer les frontières. C'est assez nous amuser aux bagatelles de la sorte. Et il nous faut chercher au plus vite le royaume des heureux, qui est un grand royaume où nous régnerons à l'aise. Surtout, marchons de compagnie. Nous emploierons quelques matinées à parfaire notre éducation, à prendre une idée précise de ce monde dont nous allons gouverner un des coins. Est-ce dit, mignon ?
Sidoine ne pleurait plus, ne réfléchissait plus, ne parlait plus. Les larmes, un instant, lui avaient mis des pensées au cerveau et des paroles aux lèvres.
le tout s'en était allé ensemble.
« Écoute et ne réponds pas, » ajouta Médéric. « Nous allons enjamber notre royaume d'hier et nous diriger vers l'Orient, en quête de notre royaume de demain. »
Chapitre 8. L'aimable Primevère, reine du royaume des heureux.
Il est grand temps, Ninon, de te conter les merveilles du royaume des heureux. Voici les détails que Médéric tenait de son ami le Bouvreuil.
Le royaume des heureux est situé dans un monde que les géographes n'ont encore pu découvrir, mais qu'ont bien connu les braves cœurs de tous les temps pour l'avoir maintes fois visité en songe. Je ne saurais rien te dire sur la mesure de sa surface, la hauteur de ses montagnes, la longueur de ses fleuves. Les frontières n'en sont point parfaitement arrêtées, et jusqu'à ce jour, la science du géomètre consiste, dans ce fortuné pays, à mesurer la terre par petits coins, selon les besoins de chaque famille. Le printemps n'y règne pas éternellement, comme tu pourrais le croire. La fleur a ses épines. La plaine est semée de grands rocs. Les crépuscules sont suivis de nuits sombres, suivis à leur tour de blanches aurores. La fécondité, le climat salubre, la beauté suprême de ce royaume proviennent de l'admirable harmonie, du savant équilibre des éléments. Le soleil mûrit les fruits que la pluie a fait croître. La nuit repose le sillon du travail fécondant du jour. Jamais le ciel ne brûle les moissons. Jamais les froids n'arrêtent les rivières dans leur course. Rien n'est vainqueur. Tout se contrebalance, se met pour sa part dans l'ordre universel, de sorte que ce monde, où entrent en égale quantité toutes les influences contraires, est un monde de paix, de justice et de devoir. Le royaume des heureux est très peuplé. Depuis quand, on l'ignore. Mais, à coup sûr, on ne donnerait pas 10 ans à cette nation. Elle ne paraît pas encore se douter de la perfectibilité du genre humain. Elle vit paisiblement, sans avoir besoin de voter chaque jour pour maintenir une loi. 20 lois, qui chacune en demanderont à leur tour 20 autres, pourraient également maintenues. L'édifice d'iniquité et d'oppression n'en est qu'au fondement. Quelques grands sentiments, simples comme des vérités, y tiennent lieu de règles. La fraternité devant Dieu, le besoin de repos, la connaissance du néant de la créature, le vague espoir d'une tranquillité éternelle. Il y a une entente tacite entre ces passants d'une heure qui se demandent à quoi bon se coudoyer lorsque la route est large et mène petits et grands à la même porte. Une nature harmonieuse, toujours semblable à elle-même, a influé sur le caractère des habitants. Ils ont, comme elle, une âme riche d'émotions, accessible à tous les sentiments. Cette âme, où la moindre passion en plus amènerait des tempêtes, jouit d'un calme inaltérable, par la juste réparation des facultés bonnes et mauvaises. Tu le vois, Ninon, ce ne sont pas là des anges, et leur monde n'est pas un paradis. Un rêveur de nos pays fiévreux s'accommoderait mal de cette région tempérée où le cœur doit battre d'un mouvement régulier, aux caresses d'un air pur et tiède. Il dédaignerait ces horizons tranquilles, baignés d'une lumière blanche, sans orage, sans midi éblouissant. Mais quelle douce patrie pour ceux qui, sortis hier de la mort, se souviennent en soupirant du bon sommeil qu'ils ont dormi dans l'éternité passée, et qui attendent, d'heure en heure, le repos de l'éternité future. Ceux-là se refusent à souffrir la vie. Ils aspirent à cet équilibre, à cette sainte tranquillité, qui leur rappelle leur véritable essence, celle de n'être pas. Se sentant à la fois bons et méchants, ils ont pris pour loi d'effacer autant que possible la créature sous le ciel, de lui rendre sa place dans la création en réglant les harmonies de leur âme sur les harmonies de l'univers. Chez un tel peuple, il ne peut exister grande hiérarchie. Ils se contentent de vivre, sans se séparer en castes ennemies, ce qui le dispense d'avoir une histoire. Ils refusent ces choix du hasard qui appellent certains hommes à la domination de leurs frères, en leur donnant une part d'intelligence plus grande que la commune part dont le ciel peut disposer envers chacun de ses enfants. Courageux et poltrons, idiots et hommes de génie, bons et méchants, se résignent en ce pays à n'être rien par eux-mêmes, à se reconnaître pour tout mérite celui de faire partie de la famille humaine. De cette pensée de justice est née une société modeste, un peu monotone au premier regard, n'ayant pas de forte personnalité, mais d'un ensemble admirable, ne nourrissant aucune haine, constituant un véritable peuple, dans le sens le plus exact de ce mot. Donc, ni petit ni grand, ni riche ni pauvre, pas de dignité, pas d'échelle sociale, les uns en haut, les autres en bas, et ceci poussant cela. Une nation insouciante, vivant de tranquillité, aimante et philosophe. Des hommes qui ne sont plus des hommes. Cependant, au premier jour du royaume, pour ne pas trop se faire montrer au doigt par leurs voisins, ils avaient sacrifié aux idées reçues en nommant un roi. Ils n'en sentaient pas le besoin. Ils ne virent dans cette mesure qu'une simple formalité, même un moyen ingénieux d'abriter leur liberté à l'ombre d'une monarchie. Ils choisirent le plus humble des citoyens, non point assez bête pour qu'il pût devenir méchant à la longue, mais d'une intelligence suffisante pour qu'il se sentît le frère de ses sujets. Ce choix fut une des causes de la paisible prospérité du royaume. La mesure prise, le roi oublia peu à peu qu'il avait un peuple, le peuple qu'il avait un roi. Le gouvernant et les gouvernés s'en allèrent ainsi côte à côte dans les siècles, se protégeant mutuellement sans en avoir conscience. Les lois régnaient par cela même qu'elles ne se faisaient pas sentir. Le pays jouissait d'un ordre parfait, résultant de sa position unique dans l'histoire. Une monarchie libre dans un peuple libre. Ce seraient de curieuses annales, celles qui conteraient l'histoire des rois du royaume des heureux. Certes, les grands exploits et les réformes humanitaires y tiendraient peu de place et offriraient un mince intérêt. Mais les braves gens prendraient plaisir à voir avec quelle naïve simplicité se succédait sur le trône cette race d'excellents hommes qui naissaient rois tout naturellement, qui portaient la couronne, comme on porte au berceau des cheveux blonds ou noirs. La nation, ayant au commencement pris la peine de se donner un maître, entendait bien ne plus s'occuper de ce soin, et comptait avoir voté une fois pour toutes. Elle n'agissait pas précisément ainsi par respect pour l'hérédité, mot dont elle ignorait le sens. Mais cette façon de procéder lui paraissait de beaucoup la plus commode. Aussi, lors du règne de l'aimable Primevère, aucun généalogiste n'aurait-il pu, en remontant le cours des temps, suivre, dans ses différents membres, cette longue descendance de rois, tous issus du même père. L'héritage royal les suivait dans les âges, sans qu'ils aient jamais à s'inquiéter si quelque mendiant ne le leur volait pas en route. Maints d'entre eux parurent même ignorer toute leur vie la haute sinécure qu'ils tenaient de leurs aïeux. Pères, mères, fils, filles, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, s'étaient passé le sceptre de main en main, comme un joyau de famille. Le peuple aurait fini par ne plus reconnaître son roi du moment, dans une parenté devenue nombreuse à la longue et fort embrouillée, sans la bonhomie mise par les princes eux-mêmes à se faire reconnaître. Parfois, il se présentait telle circonstance où un roi était d'une nécessité absolue. Comme, à tout prendre, le cours ordinaire des choses est préférable, les sujets sommaient leur maître légitime de se nommer. Alors, celui qui possédait le bâton de bois doré dans un coin de sa maison le prenait modestement, jouait son rôle, quitte à se retirer la farce terminée. Ces courtes apparitions d'une majesté mettaient un peu d'ordre dans les souvenirs de la nation. Il faut le faire remarquer, au grand honneur de la famille régnante, jamais, à l'appel du peuple, deux rois ne s'étaient présentés. Entre héritiers, le fait mérite d'être constaté. Pas d'arrière-neveu envieux du gros lot échu à la branche aînée. Je ne puis affirmer cependant que l'aimable Primevère fut issu directement du roi fondateur de la dynastie. Tu le sais, de reste, on n'est pas toujours la fille de son père. En toute certitude, la dignité de reine s'était transmise jusqu'à elle, d'après les lois civiles de parenté. Elle avait dans les veines un sang rose, où peut-être pas une goutte de sang royal ne se trouvait mêlée, mais qui certainement gardait encore quelques atomes du sang du premier homme. Magnifique exemple pour les peuples et les princes de nos contrées, que cette dynastie se développant sans secousse, descendant les âges au gré des naissances et des morts. Le père de l'aimable Primevère, comme il vieillissait, oubliant le grand art de ses ancêtres, eut la singulière idée de vouloir apporter quelques réformes dans le gouvernement. Une république faillit bel et bien être déclarée. Sur ces entrefaites, le bonhomme mourut, ce qui évita à ses sujets la peine de se fâcher. Ils n'eurent garde, dès lors, de changer un système politique dont ils se trouvaient au mieux depuis tant de siècles. Ils laissèrent tranquillement monter sur le trône la fille unique du défunt, l'aimable Primevère, âgée de 12 ans. L'enfant, qui avait un grand sens pour son âge, se garda de suivre l'exemple de son père. Ayant appris ce qu'il en coûtait de vouloir le bonheur d'une nation qui déclarait jouir d'une parfaite félicité, elle chercha ailleurs des êtres à consoler, des existences à rendre plus douces. Selon l'histoire, elle tenait du ciel une de ces âmes de femme, faites de pitié et d'amour, souffle d'un Dieu meilleur, et d'une essence si pure que les hommes, pour expliquer cette bonté pénétrante, ont été forcés d'inventer tout un peuple d'anges et de chérubins. Eh oui, ni non. Nous peuplons le ciel de nos amoureuses, de nos sœurs à la voix tendre, de nos mères, ces saintes âmes, les anges gardiens de nos prières. Dieu ne perd rien à cette croyance qui est la mienne. S'il lui faut une milice céleste, il a là-haut autour de son trône les pensées miséricordieuses de tous les braves cœurs de femmes aimant en ce monde. Primevère donna, dès sa naissance, plusieurs preuves de sa mission. Elle naissait pour protéger les faibles et faire des œuvres de paix et de justice. Je ne te dirai point, quand sa mère l'enfanta, qu'on remarqua plus de soleil aux cieux, plus d'allégresse dans les cœurs. Cependant, ce jour-là, les hirondelles du toit causèrent de l'événement plus tard que de coutume. Si les loups ne s'attendrirent pas, les larmes de joie n'étant guère dans leur nature, les brebis, passant devant la porte, bêlèrent doucement, se regardant avec des yeux humides. Il y eut parmi les bêtes du pays, j'entends les bonnes bêtes, une émotion qui adoucit pour une heure leur triste condition de brute. Un messie était né, attendu de ces pauvres intelligences. Je te le demande, et cela sans raillerie sacrilège. Dans leurs souffrances et leurs ténèbres, ne doivent-elles pas, comme nous, espérer un sauveur? Couché dans son berceau, Primevère, en ouvrant les yeux, accorda son premier sourire aux chiens et aux chats de la maison, assis sur leur derrière, aux deux bords du petit lit, gravement, comme il sied à de hauts dignitaires.
elle versa sa première larme, tendant les mains vers une cage où chantait tristement un rossignol. Lorsque, pour l'apaiser, on lui eut remis la frêle prison, elle l'ouvrit et reprit son sourire à voir l'oiseau étendre large ses ailes. Je ne puis te compter, jour par jour, sa jeunesse, passée à placer près des fourmilières des poignées de blé. Non, tout à fait au bord, pour ne pas ôter aux ouvrières le plaisir du travail, mais à une courte distance, afin de ménager les pauvres membres de ses infiniment petits. Sa belle jeunesse, dont elle fit une longue fête, soulageant son besoin de bonté, donnant à son cœur la continuelle joie de faire le bien, d'aider les misérables, pierrots et hannetons sauvés des mains de méchants garçons, chèvres consolées par une caresse de la perte de leurs chevreaux, bêtes domestiques nourries grassement d'eau et de soupe cuite, pain émietté sur les toits, fétus de paille tendus aux insectes naufragés, bienfaits, douces paroles de toutes sortes. Je l'ai dit, elle eut de bonne heure l'âge de raison. Ce qui d'abord avait été chez elle instinct du cœur, devint bientôt jugement et règle de conduite. Ce ne fut plus seulement sa bonté naturelle qui lui fit aimer les bêtes. Ce bon sens dont nous nous servons pour dominer eut en elle ce rare résultat de lui donner plus d'amour en l'aidant à comprendre combien les créatures ont besoin d'être aimées. Quand elle allait par les sentiers avec les fillettes de son âge, elle prêchait parfois sa mission, et c'était un charmant spectacle que ce docteur aux lèvres roses, d'une naïveté grave, expliquant à ses disciples la nouvelle religion, celle qui apprend à tendre la main, dans la création, aux êtres les plus déshérités. Elle disait souvent qu'elle avait eu jadis de grandes pitiés, en songeant aux bêtes privées de la parole, ne pouvant ainsi nous témoigner leurs besoins. Elle craignait, dans ses premières années, de passer à leur côté, quand elles avaient faim ou soif, et de s'éloigner sans les soulager, leur laissant ainsi la haineuse pensée du mauvais cœur d'une petite fille se refusant à la charité. « De là, disait-elle, vient toute la mésintelligence entre les fils de Dieu, depuis l'homme jusqu'au ver. Ils n'entendent point leur langage, ils se dédaignent, faute de se comprendre assez pour se secourir en frères. » Bien des fois, en face d'un grand bœuf qui arrêtait, des heures entières, ses yeux mornes sur elle, elle avait cherché avec angoisse ce que pouvait désirer la pauvre créature qui la regardait si tristement. Mais maintenant, pour sa part, elle ne craignait plus d'être jugée méchante. La langue de chaque bête lui était connue. Elle devait cette science à l'amitié de ces chers malheureux qui la lui avaient enseignée dans une longue fréquentation. Et quand on lui demandait la façon d'apprendre ces milliers de langages pour mettre fin à un malentendu qui rend la création mauvaise, elle répondait avec un doux sourire « Aimez les bêtes, vous les comprendrez. » Ce n'étaient pas d'ailleurs des raisonnements bien profonds que les siens. Elle jugeait avec le cœur, ne s'embarrassant pas d'idées philosophiques qu'elle ignorait. Sa façon de voir avait ceci d'étrange, en notre siècle d'orgueil, qu'elle ne considérait pas l'homme seul dans l'œuvre de Dieu. Elle aimait la vie sous toutes les formes. Elle voyait les êtres, du plus humble jusqu'au plus grand, gémir sous une même loi de souffrance. Dans cette fraternité des larmes, elle ne pouvait distinguer ceux qui ont une âme de ceux auxquels nous n'en accordons pas. La pierre seule la laissait insensible. Et encore, par les rudes gelées de janvier, elle songeait à ces pauvres cailloux qui devaient avoir si froid sur les grands chemins. Elle s'était attachée aux bêtes, comme nous, nous nous attachons aux aveugles et aux muets, parce qu'ils ne voient ni n'entendent. Elle allait chercher les plus misérables des créatures par besoin d'aimer beaucoup. Certes,
elle n'avait pas la sotte idée de croire un homme caché sous la peau d'un âne ou d'un loup. Ce sont là d'absurdes inventions pouvant venir à un philosophe, mais peu faites pour la tête blonde d'une petite fille. Voilà encore un parfait égoïste, le sage qui a déclaré aimer les bêtes parce que les bêtes sont des hommes déguisés. Pour elle, Dieu merci, elle croyait les bêtes des bêtes complètes. Elle les aimait naïvement, songeant qu'elles vivent, qu'elles sentent la joie et la douleur, comme nous. Elle les traitait en sœurs, tout en comprenant la différence qui existe entre leur être et le nôtre, mais en se disant aussi que Dieu, leur ayant donné la vie, les a faites pour être consolées. Lorsque l'aimable Primevère monta sur le trône, voyant qu'elle ne pouvait faire œuvre de charité en travaillant au bonheur de son peuple, elle prit la résolution de travailler à celui des bêtes de son royaume. Puisque les hommes se déclaraient parfaitement heureux, elle se consacrait à la félicité des insectes et des lions. Ainsi, elle apaisait son besoin d'aimer. Il faut le dire, si la concorde régnait dans les villes, il n'en était pas de même dans les bois. De tout temps, Primevère avait éprouvé de douloureux étonnements à voir la guerre éternelle que se livrent entre elles les créatures. Elle ne pouvait s'expliquer l'araignée buvant le sang de la mouche, l'oiseau se nourrissant de l'araignée. Un de ses plus pesants cauchemars consistait à voir, par les mauvaises nuits d'hiver, une sorte de ronde effrayante, un cercle immense emplissant les cieux. Ce cercle était formé de tous les êtres placés à la file, se dévorant les uns les autres. Ils tournaient sans cesse, emportés dans la furie du terrible festin. L'épouvante mettait au front de l'enfant une sueur froide, lorsqu'elle comprenait que ce festin ne pouvait finir, que les êtres tourneraient ainsi éternellement, au milieu de cris d'agonie. Mais c'était là un rêve pour elle. La chère fillette n'avait pas conscience de la loi fatale de la vie, qui ne peut être sans la mort. Elle croyait au pouvoir souverain de ses larmes. Voici le beau projet qu'elle forma, dans son innocence et sa bonté, pour le plus grand bonheur des bêtes de son royaume. À peine maîtresse du pouvoir, elle fit publier à son de trompe, au carrefour de chaque forêt, dans les basses-cours et sur les places des grandes villes, que toute bête, se sentant lasse du métier de vagabond, trouverait un asile sûr à la cour de l'aimable Primevère. En outre, disait la proclamation, les pensionnaires, instruits dans l'art difficile d'être heureux, selon les lois du cœur et de la raison, jouiraient d'une nourriture abondante, exempte de larmes. Comme l'hiver approchait, les repas devenant rares, des loups maigres, des insectes frileux, tous les animaux domestiques de la contrée, les chats et les chiens errants, enfin 5 à 6 douzaines de bêtes fauves, curieuses, se rendirent à l'appel de la jeune reine. Elle les logea commodément dans un grand hangar, leur donnant 1000 douceurs les plus nouvelles pour eux. Son système d'éducation était simple comme son âme. Il consistait à beaucoup aimer ses élèves, leur prêchant d'exemple un amour mutuel. Elle fit construire pour chacun d'eux une cellule semblable, sans se soucier de leurs différences de nature, les pourvus de bonnes couches de paille et de bruyère, d'auges propres et à hauteur convenable, de couvertures en hiver, de branches de feuillage en été. Le plus possible, elle voulait les amener à oublier leur vie vagabonde, aux joies cuisantes. Aussi avait-elle, bien à regret, fait entourer le hangar de fortes grilles pour aider à la conversion, en mettant une barrière entre l'esprit de révolte des bêtes du dehors et les excellentes dispositions de ses disciples. Matin et soir, elle les visitait, les réunissait dans une salle commune où elle les caressait, chacune selon le mérite. Elle ne leur tenait pas elle-même de longs discours, mais les excitait à des discussions amicales, sur des cas délicats de fraternité et d'abnégation, encourageant les orateurs bien pensants, réprimandant avec bonté ceux qui élevaient un peu trop la voix. Son but était de les confondre peu à peu en un même peuple. Elle espérait faire perdre à chaque espèce sa langue et ses habitudes, les conduire toutes insensiblement à une unité universelle, en brouillant pour elles, par un continuel contact, leurs diverses façons de voir et d'entendre. Ainsi, elle posait les faibles sous les pattes des forts. Elle amenait à converser entre eux la cigale, au cri aigre, et le taureau, ronflant à plein naseau. Elle logeait à côté des lévriers les lièvres et les renards au beau milieu des poules. Mais la mesure qu'elle pensa la plus habile fut de servir dans les écuelles de tous une même nourriture. Cette nourriture ne pouvant être ni chair ni poisson, l'ordinaire se composa pour chacun d'une écuelle de lait par jour, plus ou moins profonde, selon l'appétit du fonctionnaire. Tout se trouvant réglé de la sorte, l'aimable Primevère attendit les résultats. « Il ne pouvait manquer d'être bon, » pensait-elle, « puisque les moyens employés étaient excellents en eux-mêmes. » Les hommes de son royaume se déclaraient de plus en plus heureux, se fâchant dès qu'un philanthrope cherchait à leur démontrer leur misère. Les bêtes, au contraire, avouaient leur malheur et travaillaient à se donner une félicité parfaite. L'aimable Primevère, à cette époque, se trouvait être sans aucun doute la meilleure, la plus satisfaite des reines. Mais de Ric n'en savait pas plus long sur le royaume des heureux. Son ami le Bouvreuil lui avait fait entendre qu'il s'était envolé un beau matin du hangar hospitalier, sans lui confier la raison de cette fuite inexplicable. Franchement, ce Bouvreuil devait être un méchant garnement, n'aimant pas le lait, préférant le soleil et les ronces.
Chapitre 9, où Médéric vulgarise la géographie, l'astronomie, l'histoire, la théologie, la philosophie, les sciences exactes, les sciences naturelles et autres menues sciences. Cependant, le géant et le nain s'en allaient par les champs, baguenaudant au soleil, désireux d'arriver et s'oubliant à chaque coude des sentiers. Médéric s'était de nouveau logé dans l'oreille de Sidoine. Le logis lui convenait de tout point. Il y découvrait sans cesse de nouvelles commodités. Les deux frères marchaient au hasard. Médéric se laissait conduire au gré des jambes de Sidoine, insoucieux de la route. Et comme ses jambes mesuraient sans peine dans un de leurs pas 20 degrés d'un méridien terrestre, il s'ensuivit qu'au bout de la première matinée, les voyageurs avaient déjà fait le tour du monde un nombre incalculable de fois. Vers midi, Médéric, las de se taire, ne put laisser de nouveau passer les mers et les continents sans donner une leçon de géographie à son compagnon. Eh, mon mignon, dit-il, il y a en ce moment des millions de pauvres enfants, enfermés dans des salles froides, qui se tuent les yeux et l'esprit à épeler le monde sur de sales bouts de papier, peints de bleu, de vert, de rouge, couvert de lignes, de noms bizarres, tout comme un grimoire cabalistique. L'homme est à plaindre de ne voir les grands spectacles que rapetissés à sa mesure. Jadis, j'ai par hasard regardé un de ces livres renfermant les contrées connues en 20 ou 30 feuilles. C'est une collection peu récréative, bonne tout au plus à meubler la mémoire des enfants. Que ne peut-on leur ouvrir le livre sublime qui s'étend devant nous, le leur faire lire d'un regard dans son immensité? Mais les marmots, fils de nos mères, n'ont pas la taille pour embrasser la page entière. Les anges seuls peuvent faire de la vraie science, si quelque vieux saint d'esprit morose donne là-haut des leçons de géographie.
Or, puisqu'il plaît à Dieu de mettre sous nos yeux cette belle carte naturelle, je désire profiter de cette rare faveur pour attirer ton attention sur les diverses façons d'être de la terre.
« Mon frère Médéric, interrompit Sidoine, je suis un ignorant, et je crains fort de ne pas te comprendre. Si peu que parler te fatigue, il est plus profitable pour nous deux que tu gardes le silence. »
« Comme toujours, mon mignon, tu dis une sottise. J'ai en ce moment un intérêt considérable à t'entretenir sur les connaissances humaines. Car sache-le, je ne me propose rien moins que de vulgariser ces connaissances. Avant tout, sais-tu ce que c'est que vulgariser ?
Non, quitte à dire une nouvelle sottise, l'expression me paraît barbare.
Vulgariser une science, mon mignon, c'est la délayer, l'affadir autant que possible pour la rendre d'une digestion facile au cerveau des enfants et des pauvres d'esprit. Voilà ce qui arrive. Les savants dédaignent ces vérités cachées sous de lourdes draperies et leur préfèrent les vérités nues. Les enfants, jugeant avec raison les études sérieuses venir en leur temps, toujours assez tôt, continuent à jouer jusqu'à l'âge où ils peuvent monter le rude chemin du savoir sans se bander les yeux. Les pauvres d'esprit, je parle de ceux qui n'ont pas la sagesse de se boucher les oreilles, écoutent tant bien que mal les plus belles vulgarisations, s'embourrent immodérément le cerveau, ce qui les rend des sots complets. Ainsi, personne ne profite de cette idée éminemment philanthropique qui consiste à mettre la science à la portée de tout le monde. Personne, si ce n'est le vulgarisateur. Il a fait un tour de force. Tu ne peux décemment m'empêcher de faire un tour de force, mon mignon, si j'ai la moindre vanité d'en vouloir faire un.
Parle, mon frère Médéric, tes discours ne m'empêchent pas de marcher.
Voilà de sages paroles. Mon mignon, je te prie de regarder un peu attentivement aux quatre points de l'horizon. De cette hauteur, nous ne distinguons pas les hommes, nos frères. Nous pouvons prendre aisément leur ville pour des tas de pavés grisâtres, jetés au fond des plaines ou sur la pente des coteaux. La terre, ainsi considérée, offre un spectacle d'une grandeur singulière. Ici des rochers par longues arêtes, là des flaques d'eau dans les trous. Puis de loin en loin, quelques forêts faisant des taches sombres sur la blancheur du sol. Cette vue a la beauté des horizons immenses. Mais l'homme trouvera toujours plus de charme à contempler une chaumière adossée à une rampe de roche, ayant deux églantiers et un filet d'eau à sa porte.
Sidoine fit une grimace en entendant ce détail poétique.
Médéric continua. À de longs intervalles, assure-t-on, d'effrayantes secousses brisent les continents, soulèvent les mers, changent les horizons. Un nouvel acte commence dans la grande tragédie de l'éternité. En ce moment, je me figure regarder un de ces mondes antérieurs, alors que les géographes n'étaient pas. Bienheureuses montagnes, fleuves fortunés, calmes océans, vous vivez en paix. Vos milliers de siècles, sans nom devant Dieu, forme passagère d'une terre qui changera peut-être demain. Mon mignon et moi, nous vous voyons de bien haut, comme doit vous voir votre Créateur, et nous n'avons point souci de la profondeur des flots, de la hauteur des monts, ni des diverses températures des contrées. Ouvre l'oreille, Sidoine, je vulgarise plus que jamais. Je suis en plein dans la géographie physique du globe. Pour l'éternel, il devra exister autant de différents mondes qu'il y aura de bouleversements. Tu dois comprendre cela. Mais l'homme, créature d'une époque, ne peut envisager la terre que sous une seule façon d'être. Depuis la naissance d'Adam, les paysages n'ont pas changé. Ils sont tels que les eaux du dernier déluge les ont laissés à nos pères. Voilà ma besogne singulièrement simplifiée. Nous avons seulement à étudier des lignes immobiles, une certaine configuration nettement arrêtée. La mémoire du regard va suffire. Regarde, tu seras savant. La carte est belle, je pense, et tu as assez d'intelligence pour ouvrir les yeux.
Je les ouvre, mon frère. Je vois des océans, des montagnes, des rivières, des îles et mille autres choses. Même lorsque je ferme les paupières, je revois encore ces choses dans la nuit. C'est là sans doute ce que tu as appelé la mémoire du regard. Mais il serait bon, je crois, de me dire le nom de ces merveilles, de me parler un peu des habitants après m'avoir décrit la maison.
Eh, mon pauvre mignon, j'ai pu te faire en 4 mots un cours de géographie à l'usage des anges. S'il me fallait enseigner maintenant les sornettes débitées aux écoliers dont je te parlais tantôt, je n'aurais pas fini ton éducation dans 10 ans d'ici. L'homme s'est plu à tout brouiller sur la terre. Il a donné 20 noms différents à la même pointe de rocher. Il a inventé des continents et en a nié plus encore. Il a tant fondé de royaumes, en a tant anéanti, que chaque caillou dans les champs a sûrement servi de frontière à quelque nation morte. Cette rigueur des lignes, cette éternité des mêmes divisions, existe pour Dieu seul. En introduisant l'humanité sur ce vaste théâtre, il se produit un effrayant pêle-mêle. Il est si aisé, chaque 100 ans, de prendre une feuille de papier et de dessiner une nouvelle terre, celle du moment. Si la terre du Créateur avait subi tous les changements de la terre de l'homme, nous aurions devant nous, au lieu de cette carte naturelle si nette au regard, le plus étrange mélange de couleurs et de lignes. Je ne puis m'amuser aux caprices de nos frères. Je te répète de regarder attentivement. Tu en sauras plus dans un regard que tous les géographes du monde, car tu auras vu de tes yeux les grandes arêtes de la croûte terrestre, que ces messieurs cherchent encore avec leur niveau et leur compas. Voilà, si je ne me trompe, une leçon de géographie physique et politique un peu bien vulgarisée. Comme le maître cessa de parler, l'élève, qui voyageait pour l'instant au milieu des glaces, enjamba le pôle, sans plus de façon, et posa le pied dans l'autre hémisphère. Il était midi d'un côté, minuit de l'autre. Nos compagnons, qui quittaient un blanc soleil d'avril, continuèrent leur voyage par le plus beau clair de lune qu'on puisse voir. Sidoine, naïf de son naturel, pensa tomber à la renverse du manque de logique que lui parurent avoir en ce moment la lune et le soleil. Il leva le nez, considérant les étoiles. « Mon mignon !» lui cria Médéric dans l'oreille. « Voici l'instant ou jamais de te vulgariser l'astronomie. L'astronomie est la géographie des astres. Elle enseigne que la Terre est un grain de poussière jeté dans l'immensité. C'est une science saine entre toutes, quand elle est prise à dose raisonnable. D'ailleurs, je ne m'appesantirai pas sur cette branche des connaissances humaines. Je te sais modeste, peu curieux de formules mathématiques. Mais, si tu avais le moindre orgueil, il me faudrait bien, pour le guérir de cette vilaine maladie, te faire entrevoir, chiffres en main, les effrayantes vérités de l'espace. Un homme, si fou qu'il puisse être, quand il considère les étoiles par une nuit claire, ne saurait conserver une seconde la sotte pensée d'un Dieu créant l'univers pour le plus grand agrément de l'humanité. Il y a là, au front du ciel, un démenti éternel à ces théories mensongères, qui, considérant l'homme seul dans la création, dispose des volontés de Dieu à son égard, comme si Dieu avait à s'occuper uniquement de la terre. Les autres mondes, qu'en fait-on? Si l'œuvre a un but, toute l'œuvre ne serait-elle pas employée à atteindre ce but? Nous, les infiniment petits, apprenons l'astronomie pour savoir quelle place nous tenons dans l'infini. Regarde le ciel, mon mignon, regarde-le bien. Tout géant que tu es, tu as au-dessus de ta tête l'immensité avec ses mystères. Si jamais il te prenait la malencontreuse idée de philosopher sur ton principe et sur ta fin, cette immensité t'empêcherait de conclure.
Mon frère Frédéric, vulgariser est un joli jeu. J'aimerais apprendre la raison du jour et de la nuit. Voilà d'étranges phénomènes auxquels je n'avais jamais songé.
Mon mignon, il en est de même de toutes choses. Nous les voyons sans cesse, sans en savoir le premier mot. Tu me demandes ce que c'est que le jour. Je n'ose te vulgariser cette grave question de physique. Sache seulement que les savants ignorent, comme toi, la cause de la lumière. Chacun d'eux s'est fait une petite théorie à l'appui de son raisonnement, et le monde n'en est ni plus ni moins éclairé. Mais je puis tenter, pour mon plus grand honneur, une vulgarisation du phénomène de la nuit. Avant tout, apprends que la nuit n'existe pas.
La nuit n'existe pas, mon frère Médéric, et cependant je la vois.
Eh, mon mignon, ferme les yeux et écoute-moi. Ne le sais-tu pas? Seule l'intelligence de l'homme voit distinctement. Les yeux sont un cadeau de l'esprit du mal, induisant la créature en erreur. La nuit n'existe pas, cela est certain, si le jour existe. Tu vas me comprendre. L'été, au temps des moissons, lorsque le ciel brûle et que les voyageurs ne peuvent supporter l'éclat des routes blanches, ils cherchent un mur à l'ombre duquel ils marchent, dans une nuit relative. Nous, en ce moment, nous nous promenons à l'ombre de la terre, dans ce que le vulgaire appelle une nuit absolue. Mais, parce que les voyageurs marchent à l'ombre, les champs voisins n'ont-ils plus les chaudes caresses du soleil? Parce que nous ne voyons goutte et ne savons où poser nos pieds, l'infini a-t-il perdu un seul rayon de lumière? Donc la nuit n'existe pas si le jour existe.
Pourquoi cette dernière restriction, mon frère? Le jour peut-il ne pas exister?
Certes, mon mignon, le jour n'existe pas si la nuit existe.
Oh, la belle vulgarisation! Et que je voudrais avoir quelques douzaines d'enfants pour leur faire oublier leurs jouets.
Écoute, la lumière n'est pas une des conditions essentielles de l'espace. Elle est sans doute un phénomène tout artificiel. Notre soleil pâlit, assure-t-on. Les astres s'éteindront forcément. Alors, l'immense nuit régnera de nouveau dans son empire, cet empire du néant dont nous sommes sortis. Tout bien considéré, la nuit existe, si le jour n'existe pas.
Mon frère, je suis tenté de croire qu'il n'existe ni l'un ni l'autre.
Peut-être bien, mon mignon. Si nous avions le temps nécessaire pour prendre une idée sommaire de toutes les connaissances, je veux dire plusieurs existences d'hommes, je te prouverais, par un troisième raisonnement, que la nuit et le jour existent l'un et l'autre. Mais c'est assez nous occuper des sciences physiques. Passons aux sciences naturelles.